Agathe Pula-Cabola, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Vous êtes orthophoniste, auteure et directrice générale de la clinique ProAction. Et mais c'est le mois de la parole et de l'audition. On voulait se donner la chance de dresser un portrait de la situation sur les troubles de la parole et de l'audition. Peut-être d'une part parce que, sans qu'on le sache peut-être nécessairement, ça touche pas mal le monde ici au Canada. On pense à une personne sur six qui est atteinte d'un trouble de parole, de langage ou d'audition. C'est beaucoup ça, Agathe, en premier lieu.
Oui, effectivement, c'est énorme, une personne sur six. Souvent, on pense que les troubles du langage, de la parole, de la communication, ça touche davantage les personnes aînées. Oui. Mais il faut vraiment comprendre que ça touche les gens de tous les âges, des individus qui sont en bonne santé également. Donc, tant les enfants que les adolescents, les adultes ou les personnes âgées.
Ça touche donc plein de personnes dans la population de tous les âges et ça a de nombreux impacts. Lorsque c'est pas soigné, d'une part, oui.
Oui, parce que ça crée des situations de handicap dans la vie de tous les jours, des difficultés au niveau de l'intégration dans la société, de l'intégration dans le milieu scolaire, dans le milieu de garde, quand on parle des jeunes enfants d'âge préscolaire, des difficultés aussi qui vont toucher l'estime de soi, la confiance en soi, l'autonomie de façon générale. Donc, ça touche vraiment le développement et l'autonomie de façon considérable.
Il y a même des statistiques qui révèlent que de jeunes qui vivent avec des problèmes de langage pour être plus susceptible de commettre des méfaits à l'âge adulte.
Oui, il va y avoir, en fait, selon certaines études, davantage de criminalité. Donc, on parle de taux d'arrestation plus élevés chez les personnes qui ont un historique de troubles du langage ou de la parole. On parle aussi de problèmes au niveau de l'intimidation. Donc, c'est des gens qui vont être victimes davantage d'intimidation en milieu scolaire ou en milieu de travail. Certaines études vont également révéler davantage de cas de troubles psychiatriques et même de dépression. Donc, ça va au-delà de la communication, ça va vraiment plus toucher un plan psychologique et au niveau de la société également.
Je ne peux pas m'empêcher de penser aussi à tout le milieu du travail lorsqu'on entend moins bien ou qu'on a des troubles de la parole. L'employabilité peut être plus complexe.
Oui, tout à fait. On évalue qu'il y a près de la moitié des Canadiens, en fait, on parle de 47 % des Canadiens et des Canadiennes entre 15 et 64 ans, donc on parle de la population qui est active, qui ont une limitation auditive et qui vont être sans emploi. Donc, c'est énorme comparativement à la population qui n'a pas de limitation au niveau de l'audition.
Oui. Il y a encore aussi des tabous, de la stigmatisation qui sont liés aux troubles de l'audition ou encore de la parole et qui peuvent nuire aux personnes qui sont touchées.
Oui, en fait, ce sont des personnes qui vont souvent être malheureusement marginalisées à la base, donc dès l'enfance ou à partir du moment où un événement survient dans la vie de l'individu. Parce qu'en fait, quand on parle de troubles de la communication, il faut savoir que des fois, c'est dès la naissance, donc dès que l'individu vient au monde, mais parfois, c'est acquis après un accident, par exemple un accident vasculaire cérébral, un traumatisme crânien chez une personne qui auparavant avait des facultés tout à fait dans la norme.
Mm-hmm.
Et les impacts ne vont pas nécessairement être les mêmes, dépendamment de l'âge auquel la difficulté survient.
Oui. J'aimerais ça aussi que l'on parle de tous les tabous liés, par exemple, au bégaiement, Agathe.
Ah oui, il y en a énormément. Souvent, on va penser que les personnes qui bégaient, bon, sont moins intelligentes que la moyenne ou vont bégayer parce qu'elles sont gênées ou parce que ce sont des personnes qui sont introverties, qui ont eu un traumatisme dans l'enfance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le bégaiement peut survenir en fait chez 5 % des individus dans la population et c'est pas en lien avec un traumatisme qui est causé dans l'enfance ou dû à la timidité. C'est vraiment un trouble qui va affecter la neurophysiologie de la parole, donc qui va affecter le mécanisme de la parole, et c'est en grande partie héréditaire. Et ce qu'on sait avec les études, c'est que ça touche beaucoup plus les garçons que les filles. On ne sait pas exactement pourquoi, mais pour une fille, il va y avoir 4 garçons qui bégaient.
Ah, ouais.
Donc, il y a une bonne disproportion entre les sexes.
Oui. Souvent aussi, un trouble de la parole ou peut-être même encore de l'audition vont être associés à tort, évidemment, au potentiel d'une personne. On va pointer du doigt son intelligence ou sa capacité de réussir.
Oui, alors que c'est seulement la communication qui va être affectée. Les personnes qui ont un trouble du langage, qu'on pense, ou un trouble de la parole, on vient de parler du bégaiement, mais on pourrait également parler d'une dyslexie, un trouble du langage écrit ou d'une dysphasie, qu'on appelle aussi le trouble primaire du langage. Ces troubles-là surviennent chez des personnes qui ont une intelligence dans la norme ou même supérieure à la moyenne.
Mm-hmm. Maintenant, le temps file, Agathe, et je veux absolument que l'on parle de dépistage précoce parce que ce que l'on peut lire aussi lorsqu'on regarde les statistiques qui sont liées à la santé de la communication, c'est qu'un bébé qui a un dépistage très tôt dans sa vie en lien avec un trouble de l'audition va par la suite beaucoup mieux se développer, avoir de meilleures chances pour sa réussite scolaire.
Tout à fait. C'est très important, l'intervention précoce, et c'est démontré par plusieurs études. Plus tôt on intervient auprès de l'enfant, donc plus tôt on dépiste, meilleur c'est et on arrive à des meilleurs résultats au niveau de l'intégration scolaire et sociale. Donc, comment on s'y prend pour dépister tôt? En fait, je dirais que la première chose, c'est de s'écouter comme parent ou comme intervenant quand on a des inquiétudes par rapport à un enfant. En tant que parent, ne pas hésiter à en parler à l'éducateur en garderie ou à l'enseignant si l'enfant est en milieu scolaire. Faire part de ses inquiétudes. Et puis, pour consulter un orthophoniste dans le réseau public, on peut se diriger à son CLSC de quartier ou à l'hôpital pour d'abord obtenir une évaluation des habiletés langagières. Et puis, suite à l'évaluation, l'orthophoniste va être en mesure de déterminer des objectifs précis de plan de traitement et d'intervention. Puis, dans son plan de traitement, en fait, on va inclure des façons, des stratégies pour stimuler le langage dans la vie de tous les jours et on va impliquer le plus possible la famille et les intervenants qui gravitent autour de l'enfant.
Oui. On parle de jeunes enfants, Agathe, mais chez la personne âgée aussi, c'est important. Il y a beaucoup de personnes plus âgées qui commencent à avoir des problèmes d'ouïe et qui vont hésiter avant d'aller consulter ou même apporter leur appareil auditif, même quand ils ont la prescription pour en porter un.
Oui. Oui, tout à fait, parce que bon, ça va être un peu une stigmatisation, une marginalisation d'une certaine façon. Si on note qu'une personne âgée de notre entourage tend à s'isoler, qu'elle va essayer de fuir les contextes de groupe, on l'invite à différents événements, elle refuse de venir, ou si on voit qu'elle nous fait souvent répéter, malgré le fait que, on est seul avec elle dans la pièce ou qu'il y a moins de bruit dans la pièce, ça, c'est des signes qui peuvent nous permettre de peut-être soupçonner une difficulté au niveau de l'audition.
Et de lui suggérer de consulter, bien sûr, un ou une orthophoniste, comme vous l'êtes, Agathe Tupula-Cabola, auteure également et directrice générale de la clinique ProAction. Merci pour ce portrait.
Merci, Marianne.
Au revoir, à la prochaine, Agathe.
Au revoir.